Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Vous savez, vous vivez une période inconfortable. Quand on est un peu déconnecté de son bâtiment, ça nous rappelle que l'Église, c'est d'abord vous, hein, c'est d'abord nous. C'est nous les pierres vivantes, bien sûr. Et je ne dis pas ça... Je ne dis pas ça pourquoi. Je ne dis pas ça par hasard. Ce matin, il y a une dame qui a rendu un témoignage dans notre Église, au culte. Elle est revenue à l'Église après 15 ans d'absence, suite au décès de son mari. Et il se fait qu'ils se sont convertis, ou du moins pour eux, le chemin vers la conversion a commencé un jour où ils cherchaient une église pour se marier, qu'elle voulait se marier dans une église protestante, elle nous a rappelé ça. Et ils se sont baladés dans un mur le soir, cherchant une église protestante, et puis ils sont arrivés là où nous étions à l'époque, c'était le 45 rue Général Michel à Namur. Et moi j'avais oublié tout ça, c'est elle qui nous a rappelé ça ce matin. Et c'était la répétition de la chorale, c'était un mardi soir, la chorale répétait. Et elle nous a rappelé que ce mardi, c'était la dernière fois que la chorale répétait le 45 rue Général Michel, parce que le samedi suivant, nous déménagions. Et nous allions être une église sans bâtiment pendant un an. Sans bâtiment. C'est-à-dire que nous avions reçu l'hospitalité payante de l'église réformée, de l'EPUB, boulevard d'Herbat, à Namur. Et on a célébré nos cultes le samedi matin. On est devenus des adventistes. Et pendant un an. Et puis voilà, le Seigneur a conduit et finalement on a pu acheter les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons maintenant. Mais on a vécu un peu cette situation d'être sans église fixe pendant une année et décalant le culte du samedi, du dimanche au samedi. Et ça nous a été rappelé ce matin au cours de ce témoignage. Alors voilà, que j'espère que ça ne va pas durer un an pour vous. Ce n'est pas prévu d'ailleurs. Mais voilà, on a appris aussi que l'Église, ça résidait surtout dans... sa vie réside dans ses membres. Alors, vous êtes loin, hein, c'est vrai que c'est une Église où il y a de la distance entre le prédicateur et... Hein, on a peur que le prédicateur soit contaminé ou contamine le reste. J'aimerais que nous lisions ensemble la parole de Dieu, on est quand même là pour ça aussi, et l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 12, et les versets 1 à 11. Jean 12, de 1 à 11. Ça va, vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, vous me signalez. Jean 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque. Oui, je ne suis pas raccord avec le calendrier, d'accord. Mais bon, voilà. J'ai sur le cœur de vous partager. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare qu'il avait ressuscité? Là, on lui offrit un repas. Marthe servait. Et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, l'Iscariote, celui qui allait le trahir dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Prions pour notre trésorier. Non mais, sans blague. Jésus dit alors « Laisse-la. » Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Je vais attirer votre attention sur cette histoire de parfum. je vais vous laisser cette question étonnante. J'espère que vous allez pas mal l'apprendre. Vous allez voir où on va en venir, j'espère. Donc, dans un premier temps, ne soyez pas choqués. Qu'est-ce que ça sent chez vous? Qu'est-ce que ça sent chez moi, pour mes visiteurs? Vous savez, une odeur, ça peut accaparer l'esprit d'une manière remarquable. Je vous assure que si ici, ça sentait le gaz, croyez-moi, vous n'écouterez pas grand-chose de ce que je vais vous raconter. Votre esprit va être accaparé par cette odeur. Parce que gaz égale danger. Hein. Ça, il y a une capacité de notre odorat mobilisé plus que simplement ce sens-là. Quoi. Tout notre esprit est accaparé par cela. Et ici, le verset 3 nous dit ceci, quand Marie a répandu ce parfum, elle l'a fait en telle quantité que toute la maison fut remplie de cette odeur. Il n'y a que Jean qui souligne ça, parce que c'est un récit qui a des parallèles en Matthieu et en Marc, à part que la femme qui a fait cela n'est pas nommée, n'est pas désignée nommément. C'était une femme. Et Jean nous dit que c'était Marie, la sœur de Lazare. Et il donne ce détail que la maison fut remplie par cet acte qu'elle a posé. Il n'y a pas que les pieds de Jésus qui sentaient bon. Toute la maison fut remplie. D'où cette question que je vous pose, qu'est-ce que ça sent chez vous? Ici, ça sentait l'offrande d'une femme, une offrande d'amour, d'affection, de générosité à Christ. Ça sentait ça, ce parfum qui a rempli toute la pièce. L'acte d'amour, d'attachement, de consécration qui remplissent d'une bonne odeur l'endroit où nous nous tenons. Imaginez, nos églises sentent cet amour-là, ou ne peuvent pas sentir ça, parce que vous allez voir qu'il y a eu d'autres perceptions olfactives ce jour-là. Cette odeur de cette offrande de Marie n'a pas plu à tout le monde. Elle n'a pas mis que des belles choses à jour. Mais cet acte gratuit, mais coûteux pour elle, a rempli cette maison d'odeur. Et moi, ça me touche. Donc je me dis, Seigneur, j'espère que dans ma maison, j'espère que dans ma vie, il y a au moins, je peux te donner cette odeur de Christ et de l'amour pour Christ et pour son œuvre. Pour son œuvre. Parce que servir Christ, c'est concrètement aussi accomplir ce qu'il nous demande de faire. Aimer nos frères, aimer nos sœurs, aimer ceux vers qui il nous envoie. L'odeur remplie de nos actes d'attachement, de consécration. Effectivement, si nous sommes dans une dynamique de calcul, si nous sommes dans une dynamique du service minimum, ça donne aussi une odeur, ou ça peut être inodore. Ça ne dérange plus personne. Alors, on a parlé beaucoup de l'Ancien Testament, l'air de rien. C'est vrai que dans les assemblées de frères, je trouve, enfin, l'Église de Champion n'a pas cet arrière-plan des assemblées de frères, mais quand même, là où on parle de la parole de Dieu, où on enseigne la parole de Dieu, on a une bonne connaissance aussi de l'Ancien Testament. Et quand vous pensez à bonne odeur, vous pensez à quoi quand vous pensez à l'Ancien Testament? Il y a quelque chose, c'est une expression qui accompagne un acte. Un ta-ta-ta de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Et encore une fois, il n'est pas dit parce que Dieu aime bien l'odeur de la viande grillée. C'était quoi un sacrifice de bonne odeur? C'est vrai que certains parfums étaient accompagnés d'offrandes végétales et parfumées. Mais cette expression de « c'était un sacrifice de bonne odeur », ça s'applique aussi aux holocaustes, ça s'applique à toute une autre série de sacrifices sans qu'il y ait nécessairement un parfum qui soit ajouté. La notion ici de parfum de bonne odeur, c'était agréable à Dieu parce que offert conformément à ses exigences, mais aussi parce que Dieu discernait dans celui qui offrait ses intentions. C'est pourquoi que plus tard, quand on va offrir ces sacrifices d'une manière formelle, hypocrite, mécanique, ces sacrifices, c'est plus d'odeur agréable pour Dieu. Pourtant, la technique est là, la quantité de viande est là, l'offrande est là, mais c'est plus d'une odeur agréable à Dieu parce que le cœur n'y est pas. Parce qu'il n'y a pas cette générosité, il n'y a pas cette honnêteté. Quand on offrait, ça avait souvent un rapport avec le péché. C'était aussi le prix du pardon. Il y avait tout un enseignement. Mais imaginez ce que Marie a offert ici. Elle a offert du parfum, elle a versé plutôt sur les pieds de Jésus et puis les essuyé avec ses cheveux. Il y a un autre récit dans l'Évangile qui nous parle d'un tel acte. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle, mais c'est dans Luc chapitre 7. Il y a une autre femme qui a fait cet acte. Et je me demande, est-ce que Marie était au courant de ce que cette femme avait fait? Chronologiquement, on a l'impression que ce qu'on va lire s'est passé avant l'épisode qu'on lit là dans Jean. Il y a une autre femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus et qui les a essuyés et qui a pleuré sur ses pieds aussi et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est dans Luc 7, 36 à 50. Et Jésus était invité aussi dans une maison, comme il était invité là dans Luc 12. Et il est dit dans Jean 12, pardon, dans Luc 7, il est dit « Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'était une pécheresse ou que c'est une pécheresse. Connaissez la suite du récit? Jésus prit la parole et puis il va dire à cet homme qui s'appelle Simon. C'est étonnant parce que quand l'épisode où Jésus a été honoré ainsi par Marie dans Jean 12, les autres évangiles, Matthieu et Marc, disent que c'était dans la maison de Simon le lépreux. Alors, j'imagine que ce n'est pas le même Simon que celui dont on parle ici. C'est étonnant le parallèle. Il est deux fois dans deux maisons différentes et le propriétaire s'appelle Simon. Simon le pharisien est dans Jean 12 chez Simon le lépreux. Peut-être un lépreux que Jésus a guéri. Une maison qui sent bon aussi le pardon et la grâce reçue par Jésus. Ici, ça sent le légalisme chez Simon. Ça sent la loi. Ça sent le jugement. Ça sent le pas content. Ça sent tout ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça se sent quand dans une église, il n'y a pas de pardon, quand il y a de la rancœur, ça se sent. Et parfois, ceux qui le sentent sont parfois des étrangers. Quand dans une maison où des chrétiens résident, il y a la colère, il y a la rancœur, il y a peut-être l'amour de l'argent qui est au-dessus de tout, mais ça se sent aussi. D'abord, Dieu le sent. Ce n'est pas l'odeur qui voudrait qu'il règne dans cette maison. Mais ça se sent. Pas tellement de temps, quelqu'un qui me disait, c'est étonnant, l'autre fois, c'est quelqu'un qui est dans une phase où je pense que elle vit des choses avec le Seigneur, comme on dit. Et elle me disait, c'est étonnant, l'autre fois, je prends quelqu'un dans ma voiture, et elle me dit, ça sent bon, non, ta voiture? Elle dit, oui, c'est le truc, le sent bon qu'on achète là dans les magasins. Non, c'est pas ça qui sent. J'en ai un dans ma voiture, il dit. Ça, c'est le même, d'ailleurs. Mais c'est bien, chez toi, ça sent pas pareil. Et ça sent bon. Et je me sens bien dans ta voiture. Et cette personne me dit, l'autre fois, j'invite quelqu'un à la maison. Elle vit dans un petit appartement, seule. Une personne non chrétienne. Elle dit, j'aime bien venir chez toi parce que ça sent bon. Et encore une fois, elle dit, je sais pas quel parfum j'ai mis. Elle dit, non, c'est pas une question de parfum. Je sais pas pourquoi, mais ça sent bon. Une odeur que je sens pas ailleurs. C'est touchant, hein? Alors, je vais pas me demander de faire une enquête olfactive chez vous, mais c'est étonnant que des gens peuvent percevoir ça, même des non-croyants. Oh Seigneur, que nos maisons, que nos églises embaument cet amour pour toi. C'est une promesse qu'il nous fait, le Seigneur. Ça sentira spécialement bon chez vous. L'amour de Dieu, l'amour du service. Alors, je reviens à ma Marie. Vous avez vu la qualité de cette femme qui a fait ce qu'elle a fait ici dans Luc 7. C'est une pécheresse. C'est une prostituée. Alors, ça me pose question quelque part quand Marie, elle, la femme honnête, la fille d'Israël, la sœur de Lazare, c'est pas n'importe qui, c'est des intimes de Jésus. C'est une fille comme il faut, Marie. Elle pose un acte. Et dans les évangiles, la seule référence que nous ayons d'une autre personne qui ait posé un tel acte, c'est celle d'une prostituée. Alors, je ne dis pas que Marie essaye de s'humilier en se prenant pour une prostituée, mais si elle est au courant de ça, eh bien, elle n'a pas regardé à sa réputation, elle n'a pas regardé à ce qu'on pouvait penser d'elle, même s'il n'y avait qu'une prostituée qui a fait ça avant elle, eh bien, elle l'a fait aussi, et pas par imitation. Parce qu'elle aimait Jésus et qu'elle a voulu faire un acte que Dieu lui avait sans doute mis sur le cœur. Et le seul qui a vraiment apprécié cet acte, vous avez remarqué qui c'est ? Qui est cette personne qui remarque et qui apprécie cet acte? C'est Jésus. C'est Jésus. Alors je me dis, tiens, il y a un parfum qui sent bon aux yeux de Dieu, qui sent bon toujours à Dieu. C'est le parfum de la repentance, comme cette femme-là, dans Luc 7. Le parfum qui était d'une odeur agréable à Dieu, c'était ces Juifs qui offraient les sacrifices, mais qui savaient pourquoi ils les offraient. Et qui combattaient le péché en eux, et qui ne se contentaient pas du rituel, ni de l'hypocrisie. Ça, c'était d'une odeur agréable à Dieu. Parfum de la confession, parfum de la repentance, de l'amour, de la foi, de l'attachement à Dieu. Tout ça, ça sent bon et ça compte pour Dieu. Alors, si c'est agréable à ses oreilles, on dirait que par retour, c'est que ça sent bon chez nous. On a une odeur céleste. Elle a lavé les pieds de Jésus, aux gens douces. Elle les a plus que lavés, là, elle les a loin. Et dans Jean 13, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va laver les pieds de ses disciples. Seigneur, comment est-ce que tu peux être comme ça avec nous? Comment tu peux faire ça pour nous, Seigneur? Tu parlais de l'émerveillement par rapport à celui en qui nous croyons. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on est parfois si radin dans le service. On a tellement peur de perdre des choses dans le service, de se faire bouffer. Alors elle lui a oint les pieds avec un parfum de grand prix et dans Jean 13, Jésus fait. Il fait encore lui au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il lave les pieds de ses disciples parce qu'il met le comble à son amour pour eux. Je crois que Marie, elle parlait le même langage que Jésus. Commence à parler le même langage que lui. Il doit y avoir quelque chose qui se passe dans la communion. Et ça doit sentir bon. Ça sentira bon dans notre vie. Je suis touché aussi, parce que Marie, on pourrait dire, oui, mais elle fait l'intéressante, comme la fois passée, la fois avant, où sa sœur travaillait tout le temps, et elle était au pied de Jésus, elle ne faisait rien qu'écouter. Et Marie est toujours comme ça, quoi. Elle est un peu spéciale. Ben, finalement, c'est touchant que deux évangiles, quand ils rapportent cet événement, ne mentionnent pas son prénom. Si nous n'avions que Matthieu et Marc, cette femme resterait une anonyme. Donc elle n'a pas cherché la gloire quelque part. Elle serait passée dans la postérité comme étant cette femme qui a fait cela. C'est Jean qui a cru bon, poussé par l'esprit, de dire qu'elle s'appelait Marie, cette femme. C'était la sœur de Lazare. Et c'est étonnant, elle nous est donnée en modèle. Vous savez qu'il est dit que chaque fois que nous annoncerions l'Évangile, on rappellerait en l'honneur de cette femme ce qu'elle a fait. C'est dit dans Matthieu et dans Marc. Extraordinaire, hein? Alors voilà, cet après-midi, est-ce qu'on sent cette odeur, j'espère, hein? Je ne vais pas dire maintenant sentez-moi, mais Seigneur, nous voulons sentir être rempli de cette bonne odeur du service, de l'amour pour toi, que ça exhale. J'ai donné en partie cette prédication dans ma propre église. Et le jour où je préparais, je terminais, ma femme faisait des cookies. Pas pour la convention, mais faisait des cookies parce qu'elle me dit « j'ai envie de faire des cookies pour l'après-culte ». Ça sentait vachement bon dans la maison. Hein. Alors moi, je ne suis pas très cookies, en fait. Hein. Je suis plus salé. Mais je pense qu'à l'odeur du cookies s'ajoutait l'odeur de l'intention. Pourquoi tu fais des cookies ce matin? Je lui ai demandé. Bah pour après le culte. Pour les personnes. Parce que je les aime bien. Ça s'entend encore meilleur. Quoi. Je crois que ça s'entend encore meilleur pour le Seigneur. Ah là là, c'est formidable hein, quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a de la valeur ajoutée. Ça sent bon. Mais bon, le récit nous dit que pour certains, ça sentait pas si bon que ça. Ou plutôt, la bonne odeur les a dérangés. Bon, ici, on va dire, oh, c'est Judas. Ouh, Judas, c'est le vilain, c'est le méchant, oui. Ce qui est embêtant, c'est que dans Matthieu et dans Marc, on ne cite pas simplement Judas comme étant le seul mécontent. Parce que dans Matthieu, il est dit que c'était les disciples qui firent cette remarque. Dans Marc, il est dit que, sans les nommer, plusieurs d'entre eux, entre eux, exprimèrent leur mécontentement. Et eux, ils ne l'ont même pas exprimé à Jésus. Ça a fait râler. C'est du gaspillage. Donc, ce qui était pour Jésus d'une odeur agréable, cette générosité, cette perte, pour lui, ça ne l'était pas, bien sûr. Mais pour certains mécontents, c'était comme ça qu'ils ont jugé la chose. Il y a un texte qui me frappe, c'est, écoutez bien ceci, c'est Paul qui parle de l'évangile annoncé aux non-croyants. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, qui répand par nous, vous connaissez peut-être pas, je vais relire parce qu'apparemment mon copier-coller a laissé une partie du verset, je ne sais pas où, c'est 2 Corinthiens 2, 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent, pour les uns, c'est un parfum de mort, pour ceux qui périssent, qui donne la mort. Pour les autres, c'est un parfum de vie qui donne la vie. Cette bonne odeur de Christ que normalement les disciples communiquent, étonnamment peut être ressentie par certains comme une odeur de mort, et par d'autres comme une odeur de vie, bienfaisante. Et notre ami Judas, ici, qui est un petit peu le porte-parole, en fin de compte, de beaucoup de mécontents, lui n'apprécie pas cette odeur. Ou en tous les cas, il voit un gaspillage. Et au travers de ce mécontentement, je me dis, mais Seigneur, est-ce que ce serait possible que nous soyons mécontents de la générosité d'un frère ou d'une sœur? Est-ce que nous serions mécontents de l'engagement trop important, de l'investissement trop important de chrétiens que nous connaissons, en disant ils exagèrent, ils vont trop loin, ils aiment trop le Seigneur. Parce que peut-être que par contraste, ça me renvoie vers moi en disant, ben moi j'en fais plus tant. Moi, je suis plutôt un déçu, je suis plutôt un modéré maintenant. Et cette bonne odeur du service que des frères et sœurs donnent, ça peut peut-être me déranger parfois. Ça renvoie vers moi l'odeur qui est devenue un peu fade de mon service. Alors, ce n'est pas une fatalité qu'on soit tout le temps là-dedans. Ça peut venir nous questionner une bonne odeur du service. Ça peut venir nous troubler et peut-être nous relancer en disant « Allez, maintenant, il faut que j'arrête là. Je me suis laissé aller. Pourquoi est-ce que maintenant, ça me dérange qu'on serve le Seigneur comme ça ? Pourquoi est-ce que ça me dérange ?» Cette question, malheureusement, Judas ne l'est pas posée. Bon, on sait qu'il était amoureux de l'argent. Le texte ici le dit d'une manière crue, c'était un voleur et il aimait l'argent. Et quelqu'un a dit à Judas que son drame, c'est que c'était un homme partagé. Mais c'est notre drame aussi. Hein. Vous savez que nous sommes des êtres partagés, des hommes double d'âme. C'est Jacques qui dit ça. Il dit à un moment donné que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, mais qu'il la demande sans douter, avec foi. Parce que celui qui doute est un homme irrésolu. Littéralement, une âme double, une âme partagée. Et il va répéter la même expression plus tard, Jacques. Une âme partagée. Eh bien, c'est un peu notre drame. Partagée entre notre amour pour le Seigneur et notre amour pour d'autres choses. Et alors, quand on n'est plus entier, ben, on n'apprécie plus toujours cette odeur du service, cette odeur de la consécration. Mais c'est un constat. Pierre était un homme partagé aussi, puisqu'il a renié Jésus. Mais Dieu l'a rétabli. Et c'est notre drame à tous. Alors, vous savez, quand Jésus prie pour que tous soient un, dans Jean 17, il prie peut-être aussi, nous on pense souvent à l'unité communautaire, hein, est-ce qu'il ne prie pas aussi pour qu'on soit un en nous, qu'on arrête d'être partagé, séparés en nous-mêmes, double. Et le Seigneur veut nous unifier. Je ferme la parenthèse, parce que c'est quand même une parenthèse. Le parfum qui a dérangé Judas, c'était peut-être l'entièreté de Marie au service de Dieu, et qui a mis à jour combien il était, lui, complètement divisé. Moi, ça m'a touché aussi un petit détail, c'est qu'il est dit de Marthe, je reviens à Jean 12, il est dit de Marthe qu'elle servait. Et vous allez dire, tiens, Marthe qui sert, ça semble être son fonds de commerce, elle. Hein. Depuis Luc 10, elle sert. C'est l'actif qui a reproché à sa sœur en son temps de ne rien faire et d'être aux pieds de Jésus. Et ici, dans Jean 12, il est dit que Marthe servait. Elle n'est pas dans sa maison. Elle est dans la maison de Simon le lépreux. Mais il n'est rien dit de plus de Marthe. Elle n'est pas venue vers sa sœur en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Tu fais encore l'intéressant ?» Il n'est plus dit ça. Alors moi j'y ai lu simplement, j'y dis « Tiens, Marthe, elle a évolué dans sa connaissance de Jésus aussi. » Et simplement, elle est heureuse de voir ce que sa sœur fait. Elle n'a rien à dire. Et elle sert sans râler. Elle est à son service, elle est apaisée, elle est heureuse de voir d'autres qui servent le Seigneur, et elle s'en réjouit. Enfin, moi j'ai lu tout ça, vous allez lire rien dans ça, vous n'avez pas oublié de me suivre, mais c'est touchant que le texte ne dit rien de plus. Elle servait, mais plus du tout dans la même attitude que lorsqu'elle servait en râlant sur sa sœur. Il y a deux manières de servir, hein. Et Marthe était apaisée. Ça sentait bon. Et elle a dû trouver que ça sentait bon. Et très, très bon. Et que c'était très bien ce qui se passait là. Servante en communion. Alors, je vous laisse un dernier partage. Dans ce livre « Dieu oublié » de Francis Chen, je ne sais pas si vous connaissez, à propos de ce service généreux que l'on peut offrir au Seigneur, et qui peut soit nous enthousiasmer et nous faire nous donner cette joie de « Ah, ça sent bon !» Et on veut faire pareil à la limite, et on encourage. Ou au contraire, il ne faut pas exagérer. Et il partage ici une double expérience, celle d'une jeune fille et sa propre expérience. Je lis. Il y a quelque temps, j'étais orateur lors d'un camp d'été et j'ai eu l'occasion de m'adresser à l'une des associations qui parrainent les enfants, le SEL local. Un bénévole m'a parlé d'une jeune fille de 16 ans, présente au camp, qui parrainait elle-même 14 enfants. J'en ai été abasourdi. 14 enfants à raison de 25 euros par mois par enfant, ça représente une grosse somme pour une lycéenne. J'ai discuté avec elle et lui ai demandé comment elle parvenait à réunir cet argent. Elle m'a répondu qu'elle travaillait pendant l'année scolaire et cumulait 3 jobs pendant l'été. Et ce qui lui permettait de pourvoir au soutien de ses enfants. Alors que les jeunes de son âge économisent pour s'acheter une voiture, elle le fait pour sauver des vies. Au lieu de dépenser l'argent qu'elle a durement gagné pour elle-même et son avenir, elle le donne à ses 14 enfants parce qu'elle croit que Dieu les aime autant qu'elle. Là, elle a gâché un gros paquet d'argent, comme Marie avec ses 300, son parfum qui coûtait 300 journées de travail. De l'argent mis de côté, sans doute. C'était pas de l'argent, Marie, qu'elle a mis au pied, qu'elle a répandu là. C'était quelque chose qui avait été thésaurisé, mis de côté. Alors voilà cette jeune fille. Et voilà ce que l'homme va dire, notre ami. Je prie pour que les personnes de son église ne tentent pas de la convaincre de renoncer à son appel. Ça n'arrive pas. Qui c'est ce bonhomme-là ? Une église qui dirait à une jeune fille que ce qu'elle fait n'est pas raisonnable, qu'elle aime trop le Seigneur. Mais enfin, ça ne se fait pas, ça. Qu'ils ne disent pas des choses telles que tu dois vraiment commencer à penser à toi maintenant. Ton avenir et ton éducation sont importants. Ce que tu fais est merveilleux, mais il est temps de réfléchir à ce qui t'attend. Il dit, je prie pour qu'elle n'entende pas ça dans son église. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que c'est ce qu'il a entendu dans la sienne. En tant qu'auteur d'un livre, celui qui a écrit aussi Crazy Love. En fait, il a donné tous ses droits. Il les a reversés à une association qui s'occupe des enfants abusés sexuellement. Et il trouvait que c'était bien, que c'est ça ce qu'il a mis sur le cœur. Et il dit, je ne demande pas que tout le monde fasse ça, il dit simplement, c'est ce que nous avons eu sur le cœur. On était tellement bouleversés par la situation de ces enfants qu'on n'a pas pu faire autrement. Il a fallu qu'on casse le parfum, qu'on le mette sur les pieds de Jésus, quoi. Il a fallu faire ça. Alors il dit, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire ça. Simplement, il a entendu dans son église des gens qui lui disent « Mais c'est pas très sage ce que tu fais, c'est pas très intelligent, t'as des enfants aussi, t'as un avenir à leur assurer. » Alors il dit ceci, au lieu de diminuer l'ardeur des personnes qui se sentent poussées par l'esprit à faire quelque chose qui nous semble insensé, nous devrions les soutenir. Au lieu de les décourager, nous devrions prier afin d'acquérir plus de discernement et d'audace. Au lieu d'atténuer la direction de l'esprit dans leur vie par nos mots et nos actes, nous devrions célébrer l'œuvre de l'esprit en eux et au travers d'eux et y prendre part. C'est interpellant, hein ? Quand Marie a répondu ce parfum, ça n'a pas fait des contents. Mais qu'est-ce que Jésus était ? Vous vous rendez compte que c'est le seul acte d'affection et de générosité dont Jésus est l'objet dans la semaine qui le mène à la croix. Il n'y a pas eu beaucoup d'actes d'affection à son égard, hein ? On dit Jésus est mort seul sur cette croix, oui. Mais avant, est-ce qu'il y a eu tellement... Oh, il y a eu des démonstrations quand il est entré à Jérusalem. Hosanna, Hosanna. Mais elle a offert, vous rendez compte, elle a offert ça à lui. Elle a gaspillé pour Jésus. C'est bouleversant. C'est touchant quand Jésus dit, quand vous faites une chose pour moi, ou quand vous faites une chose pour le plus petit de cela, c'est à moi que vous le faites. C'est à moi que vous le faites. On entend parler les cœurs du Seigneur, là. Alors, je vous laisse le psaume 23. On va le lire pour terminer. Parce que dans le psaume 23, vous savez que ça parle de parfum. Je vais vous lire. dans la version, je crois que c'est de la version du Semeur ici. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu oins d'huile ma tête. Vous savez que l'huile d'onction était parfumée. Hein, c'est un détail que Dieu avait donné. Cette huile, symbole de l'esprit, du plaisir que Dieu prend à poser ses mains sur quelqu'un pour l'investir à son service, cette huile, elle sentait bon. Elle sentait bon. Tu oins de parfum ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Seigneur, pardonne-moi si je me plais dans l'inodore. Je suis triste parfois, Seigneur, quand je suis dans le calcul. Quand parfois je ressasse, Seigneur, les moments où parfois je me suis fait avoir, où j'ai l'impression d'avoir dépensé trop d'énergie, trop de temps, peut-être trop d'argent. Pardonne-moi, Seigneur. Que j'ai oublié qu'en ces moments-là, si j'ai fait ces choses, je les ai faites pour toi. Sans calcul. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu répands par nous ta bonne odeur, l'odeur de la connaissance de Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, que nous puissions avoir pendant cette semaine, peut-être, des expériences où nous nous rendrons compte que des personnes qui ne te connaissent pas, sont troublés par ce qui émane de nous. Alors ce ne sera pas du Chanel numéro 5, mais ce sera, Seigneur, cette bonne odeur de Christ. Seigneur, si tu nous demandes de répandre à tes pieds, Seigneur, notre vie, du temps, de l'argent, je ne sais pas, si tu nous demandes, Seigneur, quelque chose cette semaine, que nous puissions le faire, Seigneur, par amour pour toi, comme un parfum de bonne odeur, et que ça remplisse l'espace où nous sommes, que ça puisse remplir, Seigneur, nos églises, nos maisons, que ça sente bon le pardon, la grâce, la miséricorde, la compassion. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Amen.